Un objet, une histoire. L'histoire d'un objet.
Objet dans l'histoire.
Un objet, une histoire. Aujourd'hui, la pipe d'opium. Différents types de pipes. De la pipe en jade ou en argent à celle en bois, les modèles utilisés pour fumer l'opium en Chine sont variés. Mais tous ont en commun un long tuyau, 30 à 50 cm, et un fourneau percé d'une ouverture dans laquelle on met la boule d'opium enflammée. Le docteur Hill le décrit en 1839 comme un bouton de cuivre en forme de poire aplatie qui présentait une petite ouverture au milieu. Monsieur Lieberman, en 1863, parle d'un godet percé d'un petit trou. En Turquie, à la même époque, on utilise le narguilé pour fumer le tombéki, un tabac très fort mélangé à des rognures de bois d'aloès ou à de l'opium. C'est une sorte d'énorme pipe qui inclut un vase rempli d'eau parfumée que la fumée traverse avant d'arriver à la bouche. Dans les premières années du 19e siècle, la consommation de l'opium se répand en Chine à l'instigation des Britanniques, auxquels la vente de ce poison subtil, cultivé à bon compte dans leur possession du Bengale, procure de substantiels bénéfices. L'usage s'impose de le fumer dans de longues pipes en bois, en métal ou en jade, selon la condition du fumeur. En 1839, Pékin tente d'y mettre fin. La guerre de l'opium se solde par la victoire des Britanniques et par une augmentation fulgurante de la consommation de drogue. Canton. Une boutique, portes et fenêtres closes. Dans une salle sombre et humide où règne une odeur âcre, des hommes, allongés sur des lits couverts de nattes, la tête appuyée sur un rouleau de paille, le regard éteint, semblent plongés dans une profonde rêverie. D'autres conversent tandis que le marchand d'opium prépare une pipe. Avec dextérité, il prend un peu d'extrait d'opium, le chandou, l'arrondit en boule, l'approche de la flamme d'une petite lampe, puis le pose sur le fourneau de la pipe, l'allume entièrement et tend la pipe à l'un des hommes. Celui-ci tire lentement sur le long tuyau en bois pour aspirer toute la fumée en une seule fois. Après 5 à 6 pipes, il éprouvera cet état de chaleur et d'excitation qui précède la torpeur puis le sommeil que procure la drogue. Une contrebande fructueuse. En ces années 1830, la consommation de l'opium se répand dans les villes chinoises, touchant tous les milieux, petites gens, fonctionnaires, riches lettrés et commerçants qui se font aménager des fumoirs somptueusement décorés et collectionnent pipes de jade ou d'argent. Certains s'inquiètent des effets dévastateurs de la drogue que les compagnies de commerce britanniques se procurent en Inde et introduisent en contrebande en Chine avec la complicité des fonctionnaires et de marchands de Canton, et ce, malgré les interdictions répétées de l'empereur. De 4570 caisses, d'un poids approximatif de 70 kg chacune, en 1800, les importations passent à 23570 caisses en 1832. L'opium représente alors près de 60% de la totalité des importations chinoises. Un trafic fructueux pour les Britanniques, mais désastreux pour les finances du Céleste Empire et qui menace de désorganiser la société chinoise. Un haut mandarin, Lin Zexu, résume ainsi la situation. Si nous continuons à laisser prospérer ce trafic, non seulement nous nous trouverons sans soldats pour résister à l'ennemi, mais aussi sans argent pour équiper l'armée. C'est cet homme lucide que l'empereur dépêche en 1839 à Canton, avec pour mission d'éradiquer le trafic de l'opium. La guerre de l'opium. Le 17 mars, Lin Zexu annonce que les vendeurs et les consommateurs seront poursuivis. Il ordonne aux marchands étrangers de livrer les caisses de drogue entreposées dans leurs navires, fait cerner par ses troupes le quartier des Factories, où sont parqués 300 Occidentaux, britanniques en majorité, et somme quelques 800 Chinois travaillant pour eux de quitter les Factories sous peine d'être décapités. Le résident américain Hunter note dans son journal « La communauté occidentale tout entière, était maintenant prisonnière des Chinois. Aucune provision ne devait pénétrer dans l'enceinte des factories et personne n'était autorisé à s'aventurer au-delà de la place. Les choses prenaient une tournure vraiment sérieuse. Début mai, Charles Elliott, haut-commissaire britannique, capitule. Il fait livrer les caisses d'opium à Ling Zexu, qui en ordonne la destruction. En juin, la boue étrangère commence à être brûlée devant des centaines de spectateurs. Dans cette atmosphère survoltée, les incidents se multiplient. En septembre, quelques navires britanniques forcent un barrage de jonques chinoises à Kowloon. Le 3 novembre 1839, un combat s'engage à Chuen Pi, entre deux frégates et 29 jonques. Le port de Canton est fermé aux étrangers. L'année suivante, le Parlement britannique vote l'envoi d'une flotte en Chine. Son but, obtenir la réouverture du commerce à Canton et le paiement de l'opium confisqué, mais aussi obliger l'empereur à ouvrir d'autres ports à ces barbares au long nez auxquels un édit de 1757 a interdit l'accès du Céleste Empire. C'est chose faite avec la signature du traité de Nankin. Imposé en 1842, au terme d'une série d'opérations militaires, la Chine cède aux Britanniques Hong Kong, leur ouvre 5 ports et leur verse une indemnité de guerre. De l'opium, il n'est question dans aucune clause du traité. 8 ans plus tard, ce sont 50 000 caisses qui sont importées. En 1863, après que les Occidentaux ont obtenu de nouvelles concessions, un voyageur français estime qu'un Chinois sur 10 en fume. Toutes les barrières qui s'opposaient à l'importation de l'opium sont tombées. La drogue meurtrière va donc pouvoir se répandre de plus en plus et tuer chaque jour, homme par homme, cette malheureuse nation. Des consommateurs d'opium britannique. Les Britanniques, qui répandent l'usage de l'opium en Chine, en sont eux-mêmes, au XIXe siècle, des consommateurs notables. Entre 1827 et 1859, la consommation d'opium en Grande-Bretagne passe de 8 à 28 tonnes, soit de 500 à 1500 grammes pour 1000 habitants, sans doute davantage si on ajoute des importations en contrebande. Ce n'est pas l'Inde, mais l'Empire ottoman qui pourvoit en quasi-totalité à la demande. La drogue est fumée, mais aussi mâchée. Elle rentre dans la composition de multiples comprimés, poudres, sirops, préparations réputées soigner les maux les plus divers, vendues librement, y compris dans les pubs. Dans le monde ouvrier, l'opium fait concurrence à l'alcool. Ce n'est qu'au dernier quart de siècle qu'un mouvement se dessine contre cet usage. Puritains moralisateurs, pharmaciens et médecins désireux de s'assurer le monopole des produits opiacés, patrons inquiets des méfaits de la drogue sur la main-d'œuvre, se retrouvent pour en dénoncer les effets nocifs. La législation réglemente le commerce et la consommation d'opium. Les dernières années du règne de Victoria voient s'amorcer son déclin. C'était un objet, une histoire, avec la pipe d'opium.